Je vous présente rapidement. Pour vous présenter, il faudrait un peu une table de multiplication, dans la mesure où vous avez déjà des racines très riches, à la fois espagnoles, italiennes, françaises et basques. Vous avez une formation de philosophe, de psychologue, de théologienne. Vous avez enseigné dans des lieux très divers, en France. Actuellement, vous enseignez à l'Institut catholique de Paris, au Collège des Bernardins aussi, à l'Institut Saint-Jean de la Croix, mais vous avez enseigné en Italie, en Belgique, à Cuba, où vous avez des liens d'amitié forts avec ce peuple et cette Église. Et donc, vous allez nous parler maintenant, nous faire une synthèse de 30 années d'études théologiques thérésiennes. Je suis heureux aussi d'annoncer, vous avez deux projets de publication. Un qui est une traduction d'un ouvrage sur Thérèse d'Avila.
Ça y est, il est en vente.
Il est déjà en vente. Je suis, vous voyez, en retard de peu de temps. Et puis aussi un ouvrage beaucoup plus personnel sur Saint Jean de la Croix. Vous êtes de fait très une grande amie depuis longtemps des réformateurs thérésiens. Donc merci de nous partager cette connaissance de l'intérieur des Saints du Carmel et ici de la Madre Teresa.
Merci de m'avoir invité. L'érudition au service de la pensée est déjà une grande chose. Mais quand l'érudition est au service d'une doctrine dans laquelle est donnée d'emblée l'unité d'une expérience et d'une intelligence de cette expérience, alors nous pouvons dire que ce miracle de l'esprit est un appel à entrer dans la compréhension avec toute notre capacité intellectuelle habitée de foi et d'Esprit Saint. Il s'agira ici de regarder, d'écouter, de recevoir quelques auteurs qui, dans leurs recherches rigoureuses et leurs travaux sur Thérèse, n'ont pas séparé dans leur propre réflexion la rigueur d'un travail de pensée, voire d'érudition, d'une expérience première fondatrice d'une doctrine, à savoir celle de Thérèse. À partir de quelle position se situe cette intervention? Penser n'est pas juger. Juger, c'est évaluer, critiquer, se mettre en surplomb du sujet qu'on étudie et regarder comme si la pensée pouvait se permettre d'exercer une quelconque autorité sur les personnes et sur les idées. Juger confronte, fait rivaliser, prend parti. En revanche, penser, c'est chercher le sens, découvrir le fond, le chemin, la trace, sans enfermer jamais l'autre ni le juger. Marc Aurèle disait « Ne vois pas les choses et les gens comme les juges qui jugent, mais toi cherche la vérité. » Mon travail est donc plutôt du côté de l'observation, de la pensée, la recherche de l'originalité des auteurs, dans l'attention au surgissement de la réflexion et à ce qu'elle produit. Ici, il s'agit de théologie, de doctrine, celle de Thérèse, appréhendée par quelques théologiens de métier. La formulation de cette intervention contient la promesse de l'impossible. Comment imaginer répondre à ce titre entre deux centenaires, 82-2015, 30 ans de recherche théologique sur Thérèse? Les organisateurs, ceux qui ont imaginé ce sujet, avaient-ils mesuré le poids de l'impossible? Merci. le champ de cette recherche nécessite au moins 2 ans à temps plein, en dehors des cours, en dehors de l'oraison, avant d'en parler. En acceptant cet impossible, j'ai dû remettre au maître de l'impossible cette tâche. Habité seulement depuis 4 mois par la clé thérésienne de chemin 16-10, « No podemos nada, sino lo que él nos hace poder. » Nous ne pouvons rien, sinon ce que lui nous fait pouvoir. De l'observation de cet impossible objectif a surgi dans la bibliothèque de la Santa Avila cet été la clé bonaventurienne pour essayer de parler de ses auteurs sans en faire une description lassante pour vous, mais en donnant vie au mouvement de leur pensée. Nous allons donc nous approcher de quelques spécialistes qui ont travaillé sur Thérèse longuement et dans le consentement à la limite, seuls quelques Espagnols, quelques Français et un Italien vont retenir, et un Canadien, mais de langue française, vont retenir notre attention. Les auteurs absents, les anglo-saxons ou d'autres français ou espagnols, ne sont ni oubliés ni ignorés, mais j'ai surtout construit ma réflexion en écoutant le conseil avisé de quelques pères carmes de l'autre côté des Pyrénées. Jusqu'aux années 70-80, dans tous les secteurs de la théologie, les traités se voulaient complets, systématiques. Et donc la perspective était plutôt de ramasser la somme des savoirs d'une manière linéaire historique sur des sujets tels Charles-André Bernard, les 3 volumes de l'histoire de l'expérience mystique, ou le traité de théologie spirituelle. Et pour Thérèse, on appliquait les conceptions spéculatives en les lisant non à partir d'elle, mais à partir de telle ou telle école ou à partir de telle ou telle position. Et on cherchait à établir sur Thérèse un savoir complet, systématique de sa théologie. Et Maximiliano Herraiz m'a dit cet été, cette attitude de travail a rendu Thérèse en huesos. On a fait de Thérèse des os. La grande nouveauté des travaux contemporains, dès les années 80, donc à partir essentiellement du centenaire donc de 1982, à l'initiative de Thomas Alvarez, il sera beaucoup question de lui, il en a été question à la conférence précédente, la grande nouveauté des travaux est de chercher à penser et étudier Thérèse à partir d'elle-même et de ses écrits, non pas à partir d'un système théologique qui essaie de faire entrer Thérèse dans des cadres. Les savoirs et la position intellectuelle sont donc désormais plus particularisés et donc plus limités. Non plus à partir d'un regard systématique, cherchant à rendre un savoir global sur tel ou tel thème, mais à prendre en compte avant tout l'évolution des recherches des sciences humaines, à savoir psychologie, psychanalyse, sociologie, anthropologie, recherche historique, linguistique. Et il sera question ici, avec Anthony Joseph qui est arrivé, et le père Brouillette, le jésuite, qui sera parmi nous aussi, de prendre en compte ses recherches les plus abouties de sémiotique et de linguistique. Et cet après-midi, nous aurons aussi un témoin de la recherche en critique littéraire, à savoir le frère Carme Juan Antonio de Madrid, qui nous parlera de ce sujet par rapport à Thérèse. Le doctorat, en 1970, avait déjà provoqué la reconnaissance d'un statut de docteur pour Thérèse, c'est-à-dire une certaine manière pour elle d'être authentiquement théologienne, puisque mère des spirituels. Et les travaux accomplis à ce moment-là pour la position du doctorat montrent bien l'émergence d'une ligne nouvelle qui va se déployer après les années 80. Tomás Álvarez en est le chantre. Son article initiateur, qui sera intégré dans cette position, Teresa de Jesús, El Camino de la Oración, va articuler un nouveau moment de l'histoire de l'étude thérésienne. Il écrit, quelques années plus tard, au sujet de cette progression et de ce changement de repère, donc citation, en français bien sûr, « Dans le champ de la théologie, mystagogue est le théologien qui partage et vit l'attitude de Jésus. Mystagogie sera donc un parler du mystère chrétien à partir de l'expérience du mystère. Pour le théologien, ce sera son expérience de foi, sa vie de foi. » Plusieurs spécialistes espagnols ou français disent au sujet de Thomas, sans Thomas, l'investigation théologique n'aurait pas été pensable. Il est le nucléo, le nœud, le centre de tous nos travaux. Selon Segundino Castro, Maximiliano Herraiz, Daniel de Pablo, Juan Antonio Marcos, c'est à Tomás Álvarez que l'on doit le mouvement de théologie thérésienne après la grande étape du doctorat de 70 et celle du centenaire de 82. Pour Tomás, il le dit et l'écrit dans ces années-là, la grande nouveauté essentielle dans la recherche est de reconnaître la place centrale de la parole de Dieu dans les écrits de Thérèse et une autre nouveauté à creuser, le statut théologique de l'oraison. Thomas travaille et fait penser avec cette clé. Thérèse contemplative est théologienne par et dans son expérience de l'oraison. Il poussera fortement Segundino Castro à faire une thèse et à s'engager dans une recherche biblique afin de montrer le statut de la parole de Dieu chez Thérèse, et ça sera son livre « Christologia Thérésiana », pas traduit hélas. Et puis, dans les années 2000, « El fulgor de la palabra ». Suivront également Román Llamas, qui étudiera la Bible chez Sainte Thérèse. Il est le bibliste le plus novateur sur ce sujet. Un jeune carme brillant a terminé il y a 3 mois sa thèse sur la Bible chez Thérèse. Il s'agit de Martin, un frère mexicain qui vit à Valladolid. Et Segundino dit Christologia Thérésiana, donc sa thèse, Christologie thérésienne, est la porte d'entrée dans une nouvelle phase d'étude de Thérèse. Pour Segundino, Thérèse est en elle-même une Bible existentielle, citation, bien sûr. Elle est une expérience biblique vécue. Les travaux des années précédentes 82 étaient surtout une réflexion spirituelle, comme si on n'osait pas encore nommer et honorer Thérèse comme théologienne. Depuis 30 ans, Les études ont fait accéder la doctrine de Thérèse non seulement au statut de doctrine, ça l'était déjà en tant que doctrine spirituelle, mais aujourd'hui, bien davantage, celui de doctrine théologique pour l'Église en ce qui concerne l'expérience de Dieu. Cela grâce aux travaux notamment de Juan Martín Velasco, prêtre du diocèse de Madrid, qui a beaucoup travaillé sur le statut de l'expérience mystique en général et en particulier dans la spiritualité carmélitaine. Et évidemment, en ce qui concerne le concept d'expérience comme clé théologique, de Maximiliano Herais, qui sera parmi nous ce soir. À partir d'eux, Velasco et Herais, on parle du lieu théologique de l'expérience, c'est-à-dire l'expérience, pas seulement de Thérèse, mais toute expérience spirituelle, a fortiori mystique, est un locus theologicus, est un lieu théologique. Et l'angle d'approche de ce lieu théologique est l'expérience d'une relation. Et je reviendrai sur la place importante de ce concept. Maximiliano Herais a écrit un tout petit livre il y a une trentaine d'années, juste aux années 80, traduit en français dans les années 85-90, l'oraison histoire d'amitié. Non pas histoire d'une amitié, qui serait une phrase facile à comprendre, mais histoire d'amitié, à savoir la relation homme-Dieu, Dieu-homme, peut se penser à partir de vie 8, donc la définition de Thérèse, une des définitions de l'oraison mentale, comme l'amitié peut se penser comme concept clé de la théologie de Thérèse. Dans le passé, la réflexion sur l'oraison, sur l'expérience spirituelle, n'avait pas le statut théologique et ne reconnaissait pas un statut théologique à la pensée de Thérèse. Même si ceux qui écrivaient, pensaient, étaient d'excellents théologiens, et de saints et fidèles thérésiens, évidemment. La grande nouveauté de ces années, 90-2000, est d'honorer l'enseignement de Thérèse comme lieu d'une théologie, proposant ainsi ce que Jean Gerson, grand théologien du Moyen-Âge, professeur à Paris et chancelier de l'Université de Paris, qui fait le lien justement entre expérience spirituelle et théologie, et qui ne sépare pas, qui unit, et qui, précisément, dans la première formulation à l'école de Denis l'Aréopagite, de l'expérience mystique comme lieu théologique, dit « la théologie comme lieu d'une pensée de l'expérience mystique, ne remisant pas ainsi l'expérience spirituelle aux marges de la théologie ». Il serait en temps, pas dans cette maison évidemment, grâce à Dieu, il serait en temps, ou il a été en temps, d'opposer théologie et spiritualité, expérience spirituelle et théologie conceptuelle, et de les séparer, même pour les penser théologiquement. Nous devons honorer ici, dans le travail de ces auteurs, la position plus espagnole que française, qui donne pleinement sa place à la spiritualité et à l'expérience spirituelle comme théologie. Car la séparation expérience de Dieu, théologie, qui subsiste depuis la fin du Moyen-Âge, doit être repensée et l'est à nouveau frais par les théologiens thérésiens. Les auteurs qui pensent l'expérience de Thérèse au plus haut de leur réflexion Et au plus haut de la réflexion, il faut nommer ici André Brouillette, donc le jésuite qui vient de publier il y a un an, à partir de sa thèse de doctorat, et qui apporte une nouveauté de réflexion théologique et de statut linguistique des écrits de Thérèse. Il est déjà reconnu par les carmes français, espagnol, italien, un frère carme espagnol qui vit à Rome, Ciro Garcia, est en train de faire une très longue recension et étude, et il en est absolument enthousiasmé. Il m'a dit c'est la grande clé de ces années. Donc la nouvelle manière de lire Thérèse qu'il opère, les questions décisives de sa réflexion sur l'esprit et le salut sont tout à fait novatrices et nous l'entendrons ce soir. Alors je passe à la deuxième partie, donc la clé bonaventurienne dont je parlais. D'abord je suis désolée parce qu'il eût été opportun de vous faire le tableau et de vous le donner, le tableau des trois moments de Saint Bonaventure, mais voilà, je confesse, le temps m'a manqué. Ce sera dans les publications, évidemment, et ça sera beaucoup plus confortable. Alors, pourquoi, qu'est-ce que ce moment clé de la pensée dans lequel j'ai pu moi-même m'essayer à situer les auteurs ? Saint Bonaventure, donc contemporain, tout à fait contemporain de Thomas d'Aquin, étudiant puis professeur à l'Institut de théologie de Paris, mort la même année que Thomas en 1274, l'un le 28 janvier, l'autre le 15 juillet. Bonaventure se situe, il est franciscain, et il se situe dans l'école donc de Hugues et Richard de Saint-Victor, et propose dans son travail, pas seulement dans le Christ-Maître, le livre fondateur de cette structure que je vais vous donner maintenant, c'est le Christ-Maître, Christus Unus Magister. En réalité, c'est la méditation, entre guillemets, la méditation du deuxième dimanche de Carême qu'il avait donné en public, et qui deviendra la charte de sa pensée théologique et reconnue par tous les théologiens médiévistes. Il s'agit de penser en trois temps l'expérience de Dieu et sa diction théologique. Alors, je vous donne en une seule phrase ces trois temps: choisir par la piété, comprendre par la raison, saisir par la contemplation. Alors, choisir par la piété, il s'agit évidemment ici, non pas de la piété au sens limité et caricatural d'aujourd'hui, du français d'aujourd'hui, mais du don de piété, c'est-à-dire l'expérience d'une rencontre personnelle, intime, intérieure avec Dieu, et ce qu'elle va structurer par le travail de l'Esprit-Saint dans l'âme. Donc, il s'agit ici d'une expérience, premier temps, choisir par la piété. L'école cartusienne retiendra le mot latin adhéret, c'est-à-dire l'adhésion à Dieu. Le deuxième temps, comprendre par l'intelligence ou par la raison, il s'agit de regarder théologiquement le premier temps de l'expérience et lui donner un statut. On pourrait dire que c'est le moment conceptuel. Et enfin, le troisième temps, qui ne s'oppose ni ne se compare avec les deux premiers, mais intègre les deux premiers, et vous comprenez bien pourquoi c'est essentiel dans une pensée théologique sur Thérèse, saisir par la contemplation, saisir et ramasser à la fois l'adhésion première, l'expérience de Dieu, le moment théologique, c'est-à-dire une réflexion de l'intellect sur l'expérience, tout cela saisi dans l'unité au-delà de l'intellect et de l'émotion, dans l'union avec Dieu, c'est-à-dire dans la foi. Et dans cette union du troisième temps, se tient, pour Bonaventure, l'œuvre de Dieu, à savoir l'œuvre de Dieu dans l'âme, évidemment, puisqu'il s'agit d'être transformé et rendu fils dans le Fils, mais il s'agit de l'œuvre de Dieu qui va produire une action dans l'homme. Hein, ce que Thérèse dit en septième demeure, quel effet le mariage spirituel produit ? Des œuvres, mes filles, des œuvres et encore des œuvres, et toujours des œuvres. Et ces œuvres ne sont pas séparées, et vous entendez là, ceux qui connaissent les thèses de ceux qui ont travaillé, on va le voir immédiatement, l'unité de l'action et de l'expérience de Dieu. On pourrait dire que la question est typiquement française, et il faut la dépasser, hein, de séparer action et contemplation. C'est un pseudo-problème. Quand on est en dynamique bonaventurienne, il n'y a pas d'opposition. Il y a une progression et une intégration dans l'unité. Je rappelle donc les trois moments, choisir par la piété, comprendre par la raison et saisir par la contemplation. Et devant l'écrasante richesse des théologiens qui ont produit sur Thérèse depuis 30 ans, il m'est apparu qu'en les positionnant dans un de ces trois moments, non pas pour comparer les trois moments, mais pour les saisir dans l'unité. J'ai trouvé là un lieu, une façon, une possibilité d'approcher et de dire quelque chose de ces auteurs. Alors, d'abord dans la première colonne, le premier moment, choisir par la piété. Puisqu'il s'agit ici d'une expérience, il me semble qu'on pourrait tout de suite s'approprier, en lâchant prise tout de suite, mais s'approprier ce que dit Thérèse en vie 17, quand elle parle des trois temps de la grâce. Il y a d'abord l'expérience de la grâce. Et puis il y a, Dieu donne la capacité de comprendre la grâce que Dieu nous donne, et le troisième temps est de communiquer la grâce. Et si vous permettez, je mets Thérèse à l'école de Bonaventure en disant que « El Señor da la merced », choisir par la piété, expérience. « Entender la merced es una segunda gracia », compréhension, moment théologique, et communicar la merced, communiquer, partager, donner à entendre dans l'union et l'action. À partir de cet élément thérésien, je vous propose Maximiliano Herreis comme premier témoin d'une théologie de l'expérience. Sa thèse est avant 82, donc je n'ai pas le droit d'en parler. Si je me tiens à ce qu'on m'a demandé, hein, Jean-Manuel, permesso. Bon. Mais sa thèse « Solo Dios basta », suivie de « L'oraison, histoire d'amitié », va articuler précisément un nouveau statut théologique à l'expérience. Et là sera sa modernité. Pour lui, le mot clé de toute la théologie de l'oraison, c'est expérience, relation, amitié. Et l'un, pas un sans les autres, expérience, relation et amitié. Pour lui, l'oraison est avant tout, ce qu'en dit Thérèse en vie 8, l'oraison est une relation, une expérience vivante. Et Maximiliano Herreis va faire de l'amitié un lieu théologique thérésien. Le non-carme de l'affaire, donc Juan Martín Velasco, qui est toujours vivant, mais qui travaille depuis une quarantaine d'années sur le concept d'expérience et de phénoménologie de l'expérience. Alors donc c'est un prêtre diocésain de Madrid, éminent théologien, et lui, on peut le situer là aussi, parce que c'est lui qui apporte, même à Maximiliano, puisqu'il est antérieur dans sa réflexion, ce lieu herméneutique de l'oraison comme lieu théologique. Un troisième nom, Marie-Joseph Huguenin, donc avec sa thèse sur la miséricorde, pourquoi l'ai-je mis de ce côté? Il faut que je m'en justifie. Il est là? Moi, je ne le connais pas, je ne connais personne. Ben oui, ma parole est honnête parce qu'elle est sans émotion et sans affectivité, puisque je ne connais pas les gens. On pourrait m'accuser... Enfin, d'empathie extrême avec l'Espagne, évidemment, je le reconnais, d'abord avec Thérèse, mais très honorée, et quel frémissement pour moi de parler devant vous. Hein, bon. Alors, cette thèse qui apporte une nouveauté radicale, parce qu'avant lui, la miséricorde comme lieu théologique et comme structuration de la pensée de Thérèse et de son expérience n'avait pas été faite. C'est un sujet tout à fait neuf. Et en même temps, il n'est pas neuf du tout pour les lecteurs de Thérèse, évidemment. Évidemment. Mais justement, Marie-Joseph Huguenin montre la miséricorde vécue par Thérèse et elle s'expérimente. Elle fonde toute sa vie, et donc la thèse en question organise sa réflexion autour d'une... Enfin, c'est moi qui dis l'affirmation, mais autour de la clé, la miséricorde est le lieu théologique structurant de Thérèse. On peut penser Thérèse à partir de ce concept « Dieu est miséricorde », et il le montre évidemment à partir de l'Ancien du Nouveau Testament, la place de la parole de Dieu dans l'œuvre de Thérèse, et dans son rapport au péché, son rapport à la guérison de la limitation de l'homme, etc. Deux autres auteurs qui n'ont pas écrit leur thèse n'était pas sur ces sujets-là, mais ils écrivent beaucoup sur... le concept d'expérience, hélas, tout est en espagnol, je suis navrée, d'ailleurs c'est pour ça qu'on m'a fait venir, hein. Mais il faut noter ici Salvador Ross, actuellement, donc Carme, actuellement prieur de Ségovie, c'est lui qui a ramassé, il a été responsable de la publication du grand colloque La réception de los místicos, donc, il a enseigné dans plusieurs lieux thérésiens et universitaires, et pour lui aussi, le fondement de la théologie contemporaine dans l'approche de Thérèse, c'est le concept d'expérience. Un autre carme qui est plutôt spécialiste de Edith Stein, il a fait sa thèse sur Edith Stein, c'est un très bon germaniste, à savoir le directeur des éditions, enfin qui était les éditions La Editoria de Espiritualidad de Madrid, qui a déménagé il y a un mois à Burgos, et donc il s'agit de Ezequiel García. Alors pour lui, l'expérience clé est l'expérience de l'oraison, et de l'oraison comme expérience lieu théologique. Il faut mentionner ici, dans cette tranche et dans cette colonne de l'expérience, absolument incontournable, deux frères de sang qui sont frères carme, Augusto et Santiago Guerra. Et pour les hispanisants parmi vous, je renvoie pour Santiago au colloque d'il y a deux ans à Avila sur la transformation du ver à soie en papillon, qui est une toute petite, tu dois le connaître évidemment, c'est une petite conférence de 45 minutes qui est tout à fait fondatrice pour la pensée en devenir sur Thérèse. Un autre moment, comprendre par l'intelligence, on pourrait dire le moment théologique dans la progression et dans la compréhension du travail sur Thérèse. À quelle heure j'ai commencé? Hein? À 10 heures. Et il reste 15 minutes. Mon Dieu Jésus. Donc, le moment théologique. Il s'agit ici surtout de ne pas penser à la française, c'est-à-dire en opposant ou en comparant, surtout, je vous en supplie, pensez ailleurs qu'en français. soyez plutôt italien ou espagnol, c'est-à-dire ressaisissez l'unité sans excès conceptuel. Donc ici, la compréhension de la pensée de Thérèse par les auteurs, et chez Thérèse, entendre, comprendre la grâce que l'on a reçue, qui est une seconde grâce. À la clé, le premier auteur qu'il convient de nommer, c'est Segundino Castro. À la demande de Thomas Alvarez, Segundino s'était engagé dans des études bibliques très poussées et donc a fait sa thèse sur Christologie thérésienne et la Bible chez Thérèse. Et il s'agit là, dans les années 80-90, de l'émergence d'un grand moment. La lecture de la Bible chez Thérèse, non pas en traçant, en étudiant chaque citation d'une manière linéaire, ce qui n'apporterait pas grand-chose, mais de montrer comment Thérèse est une Bible vivante et comment, malgré le fait qu'elle n'ait jamais eu une Bible complète en main en langue vernaculaire, à savoir en espagnol, elle est habitée par la parole de Dieu, et ce qui fonde son expérience de l'oraison, c'est la parole de Dieu. Pour Segundino Castro, évidemment, le lieu théologique est la parole de Dieu chez Thérèse. Dans la même ligne, et produit par lui, encouragé par lui, 20 ans après, ou 15 ans après dans la recherche, un théologien, un carme colombien, qui est actuellement sous-directeur du CITES à Avila, Romulo Cuartas, qui a fait sa thèse sur la Trinité chez Thérèse. Et ici, vous entendez bien, vous comprenez bien que jusqu'à présent, ces deux auteurs se situent dans ce moment théologique. Chez Romulo, il s'agit non pas d'étudier chaque citation de Thérèse sur le Père, sur le Fils, sur le Saint-Esprit, et de faire une description linéaire de vie, chemin, demeure et les autres, non. Parce que ça n'aurait eu aucun intérêt, ce n'était pas la matière d'une thèse. En revanche, Romulo met en position de questionnement la présence trinitaire dans les écrits de Thérèse face, en face des grands théologiens contemporains, à savoir Karl Rahner, Moltmann, Casper, Balthazar. Et il met en vis-à-vis pour montrer que toute l'œuvre de Thérèse est trinitaire. Ce n'est pas parce qu'elle parle du Christ dans un moment que, en pensant au Christ, à l'Esprit et à la Trinité, elle est trinitaire, mais chaque moment d'expérience et de diction de l'expérience est trinitaire. Et c'est une manière aussi de dire que ce n'est pas parce qu'elle ne parle pas de l'Esprit-Saint qu'il n'y est pas à la source. Et évidemment, André Brouillette le démontre aussi magnifiquement dans son livre sur le salut chez Thérèse. Donc Romulo étudie d'une manière nouvelle Thérèse, non plus synthétiquement dans toutes les œuvres, tout ce qui se trouve trinitaire, mais l'œuvre de Thérèse, trinitaire, face, elle supporte le questionnement des grands théologiens. Un autre carme qui n'est pas théologien à proprement parler, même s'il fait de la théologie, mais qui est proprement historien, donc qui a déjà été cité tout à l'heure, mais qui pense d'une manière systématique l'oraison, à savoir Daniel de Pablo Marotto. Alors il a produit un nombre incalculable, surtout en histoire, de sommes. On pourrait dire que c'est la somme historique en langue espagnole actuellement. Mais ici, je me réfère seulement à un livre, qui est la réécriture plus synthétique d'un livre des années 70-80 qui s'appelait « Dynamica de la oración », donc son cours en réalité à Salamanque, et il l'a réécrit et réarticulé dans Teresa en oración, Thérèse en oraison. Et pourquoi est-ce que je le mets ici? Parce que dans son âme de Carme, il n'est pas seulement historien, mais il est aussi théologien de l'oraison chez Thérèse. Mais ici, il faut signaler quand même le fait que par rapport aux autres œuvres, il est du côté de la systématisation, c'est-à-dire il essaie de dire tout ce qui peut être dit, c'est-à-dire une synthèse hyper, hyper complexe et totale de l'oraison. Chez Thérèse, par exemple, il a toute une partie sur les mouvements spirituels de l'époque, sur le contexte spirituel de los alumbrados, etc., de l'époque. Il met tout dans ce livre, et l'intérêt, évidemment, pour des enseignants ou des étudiants, c'est que tout y est. Bon, après, on peut aller chercher ailleurs, mais l'intérêt, je dirais, immédiatement théologique, c'est incontournable, même si aujourd'hui, nous ne travaillons plus dans ces critères-là. Un autre carme, donc Juan Antonio Marcos, qui fait une causerie ce soir. Alors lui, il est théologien et critique littéraire et linguiste. Et la majorité de ses livres, bon, il est jeune, ses livres sont récents, depuis 10-15 ans. Ses livres sont surtout une étude de la structure du langage chez Thérèse, mais il apporte théologiquement quelque chose de très nouveau, parce que pour Marcos, l'étude du langage de Thérèse est un acte à l'intérieur de la théologie. Il ne fait pas de la sémiotique ou de la critique littéraire une matière à côté pour étudier Thérèse, mais c'est à l'intérieur de la théologie qu'il pense la critique littéraire. Je vous renvoie en français, enfin, aux 60 pages du livre qui est sorti hier. Je n'ai pas d'action dans la maison, dans les éditions, mais enfin, comme je l'ai traduit, je sais ce qu'il y a dedans, à peu près. Donc la troisième partie du livre, la partie linguistique, traite de cette chose-là. Enfin, Ciro García, donc un carme actuellement, donc émérite d'enseignant, puisqu'il a plus l'âge d'enseigner, mais il travaille infiniment, l'actuel bibliothécaire du Thérésianum. Et donc, Ciro García est donc un professeur d'anthropologie, ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie fondamentale, et il est très réceptif, curieusement, aux catégories conceptuelles contemporaines par rapport à l'herméneutique chez Thérèse, l'herméneutique de la parole de Dieu, l'herméneutique du salut. Et donc, pour lui, il a une formule intéressante, « entender por amor ». Ça ressemble étonnamment à Guillaume de Saint-Thierry dans la lettre aux frères du Mon Dieu, comprendre par amour. Non pas faire descendre l'intelligence dans le cœur comme la tradition de la prière de Jésus, mais comprendre par l'amour, c'est-à-dire l'unité de l'acte théologique qui reçoit et qui comprend. Et donc Bonaventure, voyez, est derrière. Dans la troisième colonne, donc saisir par la contemplation, donc l'union et l'œuvre de Dieu en l'homme. Chez Thérèse, c'était donc communiquer la grâce, après avoir reçu la grâce, l'expliquer, maintenant la communiquer. Donc on est ici, chez Bonaventure, saisir par la contemplation, on est au moment d'union de l'âme avec Dieu et la surabondance de l'union dans l'action. C'est-à-dire l'union en acte, on pourrait dire l'union en acte, la communication de la grâce, le service, l'expérimentation. Et on a ici Jean-Marie Laurier, donc sa thèse sur l'humilité chez Sainte Thérèse. Donc c'est un travail aussi original, parce que n'étudie pas l'humilité qui veut. C'est une grande grâce de s'intéresser à ce sujet. Une grande grâce sans doute pour la personne, je ne connais pas ce père. Ne me dites pas qu'il est dans la salle. Non. Non. Et donc pour Jean-Marie Laurier, et pourquoi je le mets dans ce moment-là, marcher dans l'humilité revient à dire que la source et le sommet de l'expérience spirituelle de Thérèse et de tout croyant, c'est de recevoir le salut dans l'humilité, c'est-à-dire dans la reconnaissance simultanée de Dieu qui fait miséricorde et de l'âme qui est misérable pécheresse et donc qui est posée dans ce que Thérèse appelle la vérité. La humildad es andar en verdad. L'humilité, c'est marcher dans la vérité, dit Thérèse. Et donc ici, on retrouve cette argumentation-là. Et le salut reçu donc par le cœur humble qui reconnaît son péché, pourquoi dans ce moment d'union avec Dieu? Parce que seule la réception du salut par le sujet peut produire un acte vrai et authentique de mission, de service et de don de soi aux autres. Un autre moment important, il s'agit de François-Régis Villelem, je ne sais pas si je prononce bien parce que je ne connais pas ce nom. Il est là? Oh mon Dieu! Alors ici, il s'agit donc, le mot clé étant l'action, hein, l'action apostolique, il s'agit ici de l'unité, et c'est bien, je pense que c'est donc dans François-Régis Villelem qu'on trouve l'incarnation intellectuelle, théologique, de tout ce que dit Bonaventure et de tout ce que dit Thérèse au sujet de l'union, et de l'union qui produit des actes, des œuvres. Et ici, donc, avec ce travail, il y a l'unité oraison-action. C'est un sujet, vous le savez, enfin, c'est un sujet très peu étudié. L'action apostolique chez Thérèse, jusqu'à vous, il n'avait pas été étudié, au moins d'une manière aussi rigoureuse et systématique. Et pour donc ce sujet-là, pour le père Villelem, le mystique vit et agit sous l'action de l'Esprit-Saint dans l'unité intérieure. Il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur, il y a l'être uni à Dieu et Dieu qui agit dans l'être et dans l'extériorité. Et enfin, donc, le dernier, ne me dites pas qu'il est dans la salle, je vais trembler, je ne vais plus pouvoir parler. Mais comme il est de langue française, il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Il s'agit donc de la thèse de André Brouillette, ce jésuite qui s'intéresse à Sainte Thérèse. Il est là aussi? Alors là, étant donné qu'il est là... Comment? Il faut que je conclue. J'avais préparé quelques lignes sur bon, mais puisque je n'en ai plus le temps, mais en deux mots, la nouveauté radicale est à partir de Brouillette, il y a une nouvelle manière d'approcher Thérèse, c'est le statut du langage et des textes, non pas dans une théologie qu'on veut appliquer ou dans laquelle on veut intégrer Thérèse, mais penser à partir du texte. Et ici, donc, dans cette problématique, Cette problématique confirme exactement ce que j'ai dit de l'évolution théologique des 30 dernières années, à savoir qu'il n'y a plus, que ce soit dans des thèses ou dans des livres ou dans des articles, il n'y a plus la volonté de systématiser et d'un savoir global, mais à partir de quelques textes. Donc dans votre livre, c'est à partir de la lecture des fondations, de San José, c'est à partir de quelques textes clés que vous réinterprétez et vous cherchez à comprendre à partir d'une lecture linguistique, donc la sémiotique, mais nous devons remercier André Brouillette de ne pas avoir accablé le public non technicien de critique littéraire, de nous avoir fait entrer dans ce texte en gardant pour lui humblement les outils techniques. Et je ne peux pas terminer au moins sans nommer, pardonnez-moi, Antonio Maria Sicari, donc un carme italien. Ne me dites pas qu'il est là. Il arrive, bon. Alors, le tragique, c'est que son livre n'est pas traduit. Donc, je vous dis juste le titre. Nel castello interiore di Santa Teresa d'Avila, introdotto dall'inaccessibile castello da Franz Kafka a Santa Teresa. C'est donc très original. Une mise en parallèle de la métamorphose chez Kafka et de la métamorphose négative et de la métamorphose positive chez Thérèse. Mais c'est la deuxième partie que j'ai étudiée donc la semaine dernière à Rome pour montrer l'actualité de Thérèse dans l'amitié véritable qu'elle propose comme clé de pensée dans les demeures.
Il vous semblait impossible d'aborder, de traiter un tel sujet sans deux années entières de travail, mais je crois que vous avez vraiment honoré l'objectif. Donc un très très grand merci de nous avoir donné ce panorama d'études très récentes, puis dans un cadre aussi à la fois éclairant que celui donc des trois moments Bonaventure. Très grand merci.